à la suite du rapport Schwartz, rapport commandé par le nouveau pouvoir socialiste de l'époque, hein, par le biais de Pierre Mauroy. Et cette création se fait dans un contexte, depuis les années 70, de montée du chômage des 16-25 ans, pardon, et face à plusieurs constats. D'une part, le constat qu'un peu plus de 100 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Actuellement, ils sont environ 140 000. Et d'autre part, le constat qu'un peu plus... Et d'autre part, face au constat que les jeunes connaissent des difficultés croissantes d'accès aux segments les plus sûrs du marché du travail. Alors, ce public de jeunes déscolarisés et sans emploi stable a été progressivement constitué comme une priorité politique, devant faire l'objet de mesures spécifiques. Alors, c'est dans ce cadre-là que les missions locales se voient confier comme tâche principale de concourir à l'insertion professionnelle et sociale du public jeune. J'insiste, c'est professionnel et social. C'est ce que Schwartz, l'auteur du rapport fondateur, appelle l'approche globale. Alors, cette approche se distingue de la seule mise en emploi pratiquée jusqu'alors, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas séparer la dimension professionnelle et sociale de la vie des jeunes. C'est-à-dire que, dans le même temps, on va intervenir auprès des jeunes par le biais de formation, de stages, de petits boulots, mais également se préoccuper des domaines du logement, de la santé, de l'accès à la culture, etc. Alors, on voit, hein, les missions locales sont conçues comme une sorte de guichet unique à destination des 16-25 ans. Alors, cette conception particulière se traduit dans des postures qui se veulent différentes de celles de la NPE. C'est par exemple la mise en avant d'une relation d'aide et d'écoute, hein, qui prend la forme d'entretien individuel entre un conseiller référent et un jeune demandeur. Et à ce stade, une précision, il n'y a pas de radiation à la mission locale, il n'y a pas de convocation obligatoire, c'est théoriquement basé sur le volontariat. Alors au départ, les missions locales donc, se conçoivent comme des dispositifs ponctuels, agissant très localement, comme leur nom l'indique, fonctionnant avec du personnel essentiellement mis à disposition dans un premier temps, qui provient principalement de l'éducation nationale, de l'AFPA ou de la NPE. Alors, initialement, elles sont fortement dépendantes du champ politique local, donc des échéances électorales, parce qu'elles sont perçues comme étant à l'initiative du nouveau pouvoir socialiste. D'ailleurs, Schwartz était très proche de la CFDT. Les missions locales sont surtout initiées dans des municipalités communistes et socialistes. Alors, puis vers la fin des années 80, au début des années 90, elles s'institutionnalisent par le biais de la mise en place de dispositifs spécifiquement dédiés au public jeune, dont la gestion leur est de plus en plus souvent confiée, en recourant de plus en plus aussi à un personnel, cette fois, qui lui est propre. Ainsi, alors, on voit qu'elle conquiert progressivement le monopole de la gestion du chômage des jeunes en co-traitance avec la NPE. Alors d'abord de fait, puis officialisée en 2001. Alors la co-traitance, c'est le fait pour la NPE d'externaliser le traitement des demandeurs d'emploi de 16 à 25 ans que le conseiller NPE juge trop éloigné d'une situation de mise en emploi traditionnelle, si vous voulez. C'est un cumul de difficultés qui convient de régler de façon préalable. Donc, confier les jeunes chômeurs aux missions locales. Alors, je viens de le dire, c'est officialisé en 2001, j'y reviendrai par la suite. Alors, en 2005, les missions locales sont intégrées dans le Code du travail. Elles rejoignent le service public de l'emploi, ce qui semble parachever un peu leur reconnaissance institutionnelle. Toutefois, elles conservent un statut associatif. Alors actuellement, pour vous donner quelques chiffres, au niveau national, les missions locales, c'est 11 000 professionnels, presque 500 structures et 1 million de jeunes accueillis chaque année. Alors maintenant, je vais évoquer plus particulièrement la mission locale de Poitiers, qui a été créée en 90. Alors, à la date de cette création, la MLI, la mission locale de Poitiers, a la particularité de se voir confier le suivi des RMistes, ce qui est une exception Poitvine sur le plan national, qui a cessé en décembre 2009 du fait de la mise en application du RSA confié au CCAS. Donc au départ, la mission locale de Poitiers, c'est un petit nombre de conseillers qui vient surtout de l'éducation spécialisée ou du milieu socioculturel. Ils sont souvent par ailleurs des militants politiques à la CFDT ou au Parti socialiste qui sont polyvalents. Ils assurent à la fois l'accueil physique et téléphonique des jeunes, mais les reçoivent également sur ou sans rendez-vous dans le cadre d'entretiens individuels. Alors leur pratique est peu formalisée au départ, voire artisanale, et leur vaut par les partenaires d'être un peu taxé d'amateurisme parfois. C'est par exemple un conseiller qui, devant un jeune sans logement qui se présente, va le loger chez lui pour la nuit. Alors, suivant le schéma national, la mission locale de Poitiers va s'agrandir, la pratique des conseillers se formalise peu à peu, les fonctions de conseiller vont même se spécialiser, puisqu'un personnel spécifiquement dédié à l'accueil physique et téléphonique des jeunes va être recruté, tandis que les conseillers ne vont plus se consacrer qu'exclusivement aux entretiens individuels. Alors, la mission locale de Poitiers, peu à peu, fédère les petites antennes rurales qui se sont multipliées dans le département. Et en 2009, elle compte une vingtaine de conseillers, contre la demi-douzaine du début. Elle accueille 3300 jeunes, dont 1560 nouveaux inscrits en 2008, qui se répartissent de façon égale entre garçons et filles. Et un tiers de ces garçons et filles n'ont pas de diplôme. J'en arrive maintenant à mon second point, qui est la présentation du logiciel de saisie informatique, qui s'appelle Parcours 3, et qui est le logiciel utilisé dans toutes les missions locales de France depuis le début des années 90, pour suivre les jeunes dont elle a la charge. Alors toujours dans le cadre de cette question des modes de gestion, des modes d'administration de cette jeunesse, en nous penchant sur ce logiciel utilisé par l'AMLI, on se penche sur un outil qui permet d'établir, si j'ose dire, la traçabilité des jeunes pris en charge, puisque le logiciel permet de saisir et de conserver des informations très diverses sur les jeunes. Ce logiciel n'est pas nouveau, il est utilisé depuis 20 ans, il y a eu Parcours 1, Parcours 2, maintenant Parcours 3, et évidemment, le logiciel il a évolué suivant le contexte et les attentes institutionnelles. Alors schématiquement, Parcours 3 regroupe trois types d'informations. Premier type, le domaine professionnel, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, la formation, le projet professionnel. Second type d'information, le domaine social, c'est-à-dire la santé, le logement. Et le troisième type, le vie sociale. Alors ça, c'est un peu plus rare, c'était surtout au départ des missions locales. C'est la citoyenneté, les loisirs, le sport, la culture, etc. Alors, on peut réellement, grâce au logiciel, retracer la totalité du parcours d'un jeune, puisqu'il permet de recueillir des données comme la date et le contexte de sortie du système scolaire, figure le nom de l'établissement, le type de l'établissement, le niveau de certification du jeune, mais également son statut marital, son nombre d'enfants éventuels, s'il a effectué ou non sa journée d'appel, encore s'il est reconnu travailleur handicapé, la profession de ses parents. Plus globalement, le logiciel permet de retracer, excusez-moi, je la bousse un peu sèche, ça devait arriver. Plus globalement donc, le logiciel permet de retracer tout le parcours du jeune depuis son entrée à la mission locale jusqu'à son dernier rendez-vous en date, avec tous les événements de la vie du jeune qui sont déroulés depuis qu'il y est entré et qui sont estimés pertinents par les conseillers. Outre les propositions de formation ou les emplois effectués, les conseillers peuvent enregistrer dans le logiciel les éventuelles difficultés sociales traversées, les besoins d'aide financière ponctuelle, nécessitant des bons alimentaires, une aide à la mobilité, etc. Avec ce logiciel encore et surtout, les conseillers conservent par exemple la trace de toutes les propositions qu'ils ont faites aux jeunes, les propositions d'emploi, de stage, également les aides apportées aux jeunes, une aide à la rédaction de CV, de l'aide de motivation, mais aussi les contacts qu'ils ont eus avec le jeune, ça va d'un coup de fil à un email, pas simplement l'entretien individuel. Ou enfin des informations obtenues par une tierce personne, c'est-à-dire des informations indirectes, recueillies par exemple auprès d'un éducateur ou d'un formateur qui croise le conseiller et qui lui dit « Tiens, j'ai vu ton jeune, il est en stage à Pimki » ou que sais-je. Donc par contre, les informations recueillies de façon indirecte ne sont pas stockées pour constituer des données officielles. Alors grâce à ce logiciel, peut-être et surtout que les conseillers gardent toutes les démarches que les jeunes ont effectuées ou non. Je dis ou non parce que le fait de ne pas effectuer une démarche, évidemment, ça peut être perçu comme très significatif de la part du conseiller. Grâce à ce logiciel, à toutes les informations saisies, il est possible de réaliser un graphique qui synthétise l'ensemble du jeune, du parcours du jeune, pardon, et quelle que soit la durée de ce suivi. Si un jeune est même est suivi depuis 10 ans, ce graphique fait apparaître 10 ans d'informations recueillies où sont figurées les alternances entre périodes d'emploi, de non-emploi, les propositions acceptées ou refusées par le jeune, ses difficultés, etc. En pratique, les conseillers ne s'en servent jamais. Ils avancent comme raison une lisibilité, une compréhension difficile du graphique. Alors, ce qui est à noter également à propos de la pratique des conseillers vis-à-vis du logiciel, c'est que durant les entretiens individuels, c'est un dossier papier qui est utilisé par le logiciel. La saisie informatique a lieu ultérieurement. Alors, cette pratique a un sens pour les conseillers, puisqu'ils disent vouloir, en faisant ça, se démarquer de Pôle emploi. On remarque d'ailleurs hein, quand on observe les entretiens, que l'écran d'ordinateur est toujours positionné complètement à gauche, complètement à droite du bureau, mais jamais en face du conseiller pour ne pas venir parasiter le face-à-face. Alors, se distinguer de Pôle emploi en évacuant le logiciel de l'interaction signifie aussi pour les conseillers de refuser de faire des jeunes un simple numéro et faire valoir, bien sûr, hein, une qualité d'accompagnement qui serait propre aux missions locales. Les conseillers s'enorgueillissent d'ailleurs du fait que les jeunes ignorent bien souvent l'existence du logiciel, bien que ce soit l'objet d'une habilitation à la CNIL qui est affichée un peu partout dans les locaux, mais c'est tellement noyé la masse des informations affichées que ça passe inaperçu. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir de ce logiciel et dans le cadre donc, de la co-traitance avec Pôle emploi, mise en place depuis 2001, hein, je vous le rappelle, donc dans le cadre de cette co-traitance a été mis en place le dossier unique du demandeur d'emploi en 2007, consultable via Parcours 3, le logiciel des missions locales. Ce dossier est accessible et commun au Pôle emploi, aux missions locales et à la direction du travail. Il y a donc un partage d'informations sur les jeunes co-traités, puisque les partenaires sont interconnectés. Par ailleurs, le conseiller mission locale peut vérifier les dires d'un jeune, c'est-à-dire voir s'il a vraiment effectué la mission d'intérim dont il parle, s'il est indemnisé, jusqu'à quand, jusqu'à concurrence de quel montant. Mais toutefois, il a accès aux données émanant seulement des agences Pôle emploi locales. Alors cette co-traitance prend de plus en plus d'importance, puisque le nombre de jeunes co-traités au niveau national a été multiplié par 10 en 10 ans, c'est-à-dire de 15 000 en 2001 à 150 000 actuellement. Ces interconnexions, ce partage d'informations sont en outre et par ailleurs encouragées encore depuis le mois de janvier dernier, puisque il y a un accord cadre donc, qui court jusqu'en 2014 et qui encourage à intensifier le partage d'informations et les interconnexions. Alors, dans cette même dynamique de partage des informations, depuis janvier 2010 encore, le jeune, quand il arrive à la mission locale, se voit attribuer un numéro national et par le biais duquel le conseiller mission locale de Poitiers qu'il reçoit, par exemple, peut voir s'il a été auparavant suivi à la mission locale de Lille, de Marseille, etc. Et avant, ce n'était pas possible. Et le nom du conseiller qu'il suivait ailleurs apparaît aussi et le conseiller de Poitiers peut contacter et recueillir des informations. Voilà. Alors, pour conclure sur le logiciel, il faut préciser qui constitue un enjeu important pour les missions locales, puisque tous les chiffres officiels produits autour des missions locales en sont issus. Hein. Et que, parce qu'également, le logiciel légitime l'action de la mission locale en faisant preuve de son activité auprès des partenaires, par exemple, en cas de contrôle de la direction du travail, quant au suivi effectif des jeunes. Alors j'aborde maintenant ma troisième et dernière partie, qui porte sur les regards différenciés que les conseillers portent sur leur activité en fonction de leur mode d'entrée dans le métier. Alors schématiquement, on peut distinguer deux catégories de conseillers. Les plus anciens, arrivés autour du moment de la création de la mission locale, il y a une vingtaine d'années donc, dans le courant des années 90, et ceux arrivés plus récemment. Alors je le rappelle rapidement, les plus anciens, c'est-à-dire très empiriquement les plus de 45 ans, c'est le pôle issu du monde socioculturel et militant. Alors, ils ont une pratique et une conception qui reste fortement marquée par l'approche globale de Schwartz, hein, insertion professionnelle et sociale, et ils affichent une certaine hostilité vis-à-vis du pôle emploi. Pour eux, la co-traitance serait davantage, et je les cite, de la sous-traitance, voire de la maltraitance. Ils évoquent les jeunes souvent avec beaucoup de sympathie, voire de la tendresse pour ceux qui le suivent depuis longtemps. Hein, c'est elle est complètement paumée, la petite mignonne, ou le petit gars, il a des problèmes. Voilà. Et le plus souvent, ils le tutoient. Les conseillers plus récents, eux, c'est-à-dire ceux qui ont environ 35 ans, alors ils sont arrivés à la mission locale un peu au gré de la conjoncture, hein, si j'ose dire, et non pas par le biais du militantisme, comme les plus anciens. Ils sont souvent arrivés au départ pour leur formation, leur insertion professionnelle, et ils s'y sont fait embaucher. Comme c'est le cas, par exemple, pour une conseillère qui a été embauchée suite à la mise en place du contrat d'insertion à la vie sociale. Alors c'est l'illustration que les dispositifs d'insertion permettent aussi, hein, comme le dit Gérard Mauger, d'insérer les inséreurs. Leurs profils, à eux, sont plus hétérogènes. Pardon. Alors, Alors, il y en a par exemple qui ont. Il y a une titulaire d'un bac STT qui abandonne l'université après 2 années d'AES, qui, par le biais d'un contrat de professionnalisation, donc par une fréquentation plus accrue de la mission locale, se fait embaucher. Un conseiller qui a un niveau doc de droit qui passera par l'armée avant d'arriver à la mission locale. Ou encore un conseiller titulaire d'une licence d'histoire qui fera son service civil à la mission locale, qui sera pris en tant qu'emploi jeune aide documentaliste à la mission locale et qui se fera embaucher en tant que conseiller. Alors ces conseillers arrivés plus récemment, hein, ils se conçoivent plutôt comme des techniciens de l'emploi, hein, c'est-à-dire comme favorisant l'accès des jeunes aux outils de la recherche d'emploi, que l'école ne leur a pas appris. C'est par exemple un conseiller qui insiste sur l'impératif d'avoir un bon CV et qui fait mettre en mots, hein, pendant l'entretien, c'était tout à fait saisissant, par un jeune son expérience de petit boulot et qu'il a effectué et qu'il a retraduit en termes de compétences et de savoir-faire professionnel. Certains expriment un refus d'un pur et simple traitement social du chômage. Pour eux, Pôle emploi, c'est un peu un partenaire incontournable, faisant partie de l'environnement, à la différence des anciens, hein, maltraitance, sous-traitance. Contrairement aux anciens, toujours, ils tolèrent moins facilement les jeunes qui semblent ne venir surtout que pour obtenir une aide financière et n'évoquent pas ou peu la fameuse approche globale chère à Schwartz et aux anciens. Enfin, ils utilisent davantage le vouvoiement, hein, contre le tutoiement des anciens, et dans le but de mettre une distance, de se préserver contre un éventuel attachement personnel à l'égard des jeunes dont ils sont chargés. Alors, leur vocabulaire est constitué de termes relatifs à la motivation, à la volonté, et ils ont plus fréquemment recours à des petits tests auprès des jeunes, c'est-à-dire le prochain rendez-vous, on va le mettre à 8h30, voir si le jeune arrive à l'heure, etc. Alors pour conclure, on voit donc que l'administration de cette jeunesse entre école et l'emploi a fortement évolué, hein, depuis le début des années 80. Cette évolution est à la fois perceptible, hein, on vient de le voir, à travers les conceptions et les pratiques différenciées des conseillers d'insertion, mais également à travers l'utilisation de plus en plus intensive du logiciel Parcours 3. Alors si ce logiciel apparaît comme un puissant outil de fichage, en apportant sa pierre au quadrillage dont les jeunes chômeurs sont l'objet, il n'est toutefois pas perçu par les conseillers comme on pourrait s'y attendre. Hein. En effet, ces derniers le perçoivent comme un instrument de contrôle sur leur propre travail, hein. Contrôle effectué par leurs supérieurs, les partenaires et les financeurs, mais n'est jamais présenté comme un outil de fichage des jeunes. Alors, peut-être faut-il y voir là la rationalisation d'une injonction contradictoire, hein, c'est-à-dire que pour que la spécificité de l'activité de la mission locale soit reconnue comme légitime, et donc pour qu'elle puisse perdurer dans cet espace de gestion des chômeurs, elle est contrainte de mettre en œuvre un accompagnement de plus en plus soumis aux exigences du partenaire obligé qu'est Pôle emploi. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Olivier. Merci.